Vous allez écouter Les Pieds dans le Parc, un reportage à la rencontre des acteurs qui font vivre le territoire du Mont Ventoux.
Aujourd'hui, nous sommes à Caron. Nous sommes au MAD Gourédon avec Lionel Chazel.
Bonjour.
Bonjour Lionel.
Bonjour tout le monde.
Donc on est sur une petite ferme arboricole et maraîchère. Autour de moi, je vois le Mont Ventoux. Évidemment aussi le très beau vieux mât en pierre. Et on a une petite partie de vigne, une petite partie de très beaux oliviers. Je vois quelques ruches et bien sûr des fraises, puisque aujourd'hui le sujet c'est la découverte des fraises de Carpentras. Alors Lionel, parlez-moi un petit peu de votre approche, vous, de l'agriculture, la façon dont vous voyez les choses, puisque cette ferme a quand même une spécialité, elle est bio et biodynamique.
Oui, alors tout à fait, donc c'est une petite ferme entre Dentelle et Ventoux, c'est 5,5 hectares d'arboriculture et de fraises. L'objectif étant de répondre aux attentes citoyennes, et étant de produire des fruits de très bon niveau gustatif, à maturité, et avec une absence de résidus, et donc on a petit à petit glissé sur à la fois du bio, et maintenant on est en production biodynamique.
Quelle est cette étape de biodynamie?
Oui, alors il y a une étape supplémentaire dans le contrôle, dans le niveau technique, pour parvenir à cela, parce que là on est sur des espèces comme la cerise, la fraise qui sont, ou la pêche qui sont très très difficiles à conduire même en conventionnel. Donc en bio et en biodynamie on a des complexités encore plus importantes pour gérer tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau environnementaux.
Et vous pouvez nous donner un exemple?
Le cahier des charges d'émetteurs est un cahier des charges un peu plus contraignant que le cahier des charges bio. Donc en dehors des deux applications que l'on doit faire pour amplifier la biodiversité des sols qui ont un peu perdu de leur superbe ces dernières années, on a des applications réglementaires à faire. On s'appuie un peu plus sur la résilience du végétal, et donc l'objectif étant bien sûr de surveiller les populations. On a beaucoup moins de possibilités à la fois pour faire des applications, on est plus contrôlé sur les niveaux de cuivre appliqués en viticulture, on n'a pas la possibilité d'appliquer tout ce qui est insecticide. Voilà, l'objectif étant vraiment de s'appuyer sur la résilience du vivant, donc c'est une prise de risque supplémentaire parce que des fois on a des problématiques qui sont tellement difficiles que on perd. Voilà, c'est le cas par exemple avec, tout le monde le connaît bien ici dans le Ventoux, c'est la problématique de la drosophile sur cerisier ou sur fraise. Ici on travaille essentiellement avec des répulsifs, on essayer de mettre la drosophile dans un contexte d'inconfort. On a l'herbe vraiment tondue, très ventilée. L'environnement ici est assez ventilé de manière naturelle.
Oui, parce qu'on a quand même un petit peu de mistral ici.
Surtout cette partie-là de Caron, vraiment très ventilée. Mettre la drosophile dans une situation d'inconfort et ensuite uniquement des répulsifs. C'est une garantie pour le consommateur, mais c'est effectivement au début de récolte, on n'est pas en capacité de savoir si on va passer ou pas passer.
Oui, donc il y a quand même une prise de risque. Comment ça se traduit pour la production des fraises? Quel est le cycle de la production du début jusqu'à la cueillette?
Ici, on est sur un cycle traditionnel que tout en chacun pour effectuer dans son jardin. C'est-à-dire qu'on plante un fraisier en motte en première quinzaine d'août, dans des températures très très élevées.
Et vous les plantez directement dans le sol?
On a 3 parcelles de fraises cette année, on va s'avancer un peu.
Ah oui, donc on est dans un champ avec tous les petits tunnels, avec très belles fraises toutes rouges. Qui commencent à pointer leur nez.
On plante, pour le moment, on n'a pas réussi à se passer du paillage plastique malgré des essais de paillage chanvre. Et on plante les mottes de fraises au mois d'août avec une obligation d'irriguer fortement parce que c'est une période très chaude. L'objectif étant de faire un plant de fraisier très costaud parce que c'est dans le système racinaire que la fraise va garder ses réserves pour la période hivernale. Voilà, on essaie de constituer un plant assez fort jusqu'au mois de septembre. Et il faut savoir que l'initiation des fleurs se fait au moment où les jours raccourcissent. Et c'est au moment de l'équinoxe d'automne que, vers le 20 septembre, on commence à initier les rampes florales.
Donc ces plants-là que l'on voit, ils ont été plantés 10 août, cette année. Oui.
10 août, ils ont initié leurs rampes florales vers le 20 septembre. On les a laissés se reposer tout l'hiver. Donc ils subissent ce qu'on appelle ça des heures de froid.
Oui. Et ils sont sous plastique à ce moment-là?
Non, l'objectif étant qu'ils prennent des heures de froid. Donc il faut entre 600 et 1000 heures de froid. Donc c'est des températures supérieures à 7 degrés. Donc, chaque année ici dans la région, vu le climat, on obtient ces heures de froid-là. Et c'est uniquement à condition d'avoir ces heures de froid-là que les rampes florales vont se développer correctement. Ça permet de lever la dormance du fraisier. Sinon, le fraisier reste dormant et les rampes ne se développent pas. Donc, on le laisse tout l'hiver au froid, sur des rangs ici de 6 florettes. Oui. Quand on a à peu près 1000-1200 heures de froid, c'est à peu près 1er février, nous, ici, on couvre.
Ah, d'accord.
On couvre avec des chenillettes.
Les chenillettes sont ces petits arceaux.
Petits arceaux et avec par-dessus une petite bâche plastique. Et l'objectif étant de les protéger, parce que donc de hâter un peu la production pour arriver environ de la première quinzaine d'avril. Cette année, on est un petit peu plus en retard vu les conditions climatiques. De les protéger du gel, de l'épisode qu'on a eu la semaine dernière.
Donc vous n'avez pas souffert du gel la semaine dernière sur
la fraise, non, parce que j'ai mis une double protection. On a passé toute une journée à protéger avec du P17 par-dessus. Par contre, sur l'arbo, j'ai des dégâts qui sont à voir parce qu'il y a des choses que l'on voit qui ne ne sont pas très claires, en particulier sur les abricots, il y aura des pertes.
Donc on revient à nos fraises, là, elles sont splendides, elles font environ 25-30 cm de hauteur.
C'est ça. Oui, oui, bah, sifflorette est une plante avec des hampes très érigées. Une fois qu'elles sont sous la chenillette au mois de février, on recommence l'irrigation. On va les re-arroser tout tranquillement. Elles ont eu des pluies de l'hiver normalement, mais là, sous chenillette, elles sont protégées de la pluie pour éviter les problèmes botrytis et autres. Elles commencent à fleurir à partir du 1er mars, commencent à faire des feuilles, des fleurs. Il faut 35 jours à peu près entre la fleur et le fruit à maturité. Oui. Donc on arrive au 5-10 avril avec un fruit à maturité.
Là, on voit sur ces plants-là, il y a des fleurs encore, il y a des fraises vertes et puis il y a des fraises rouges.
C'est ça, c'est une variété qui remonte. Donc en fait, elle a perpétuellement de la fleur. On récolte et on continue quand même à avoir des floraisons, ce qui veut dire que là, on est au 20 avril, on aura des floraisons certainement jusqu'à mi-mai et donc des fruits jusqu'à fin juin.
Elle donne beaucoup de fruits, ça a l'air assez abondant.
Alors, c'est un fruit qui est plutôt de petite taille par rapport à la variété traditionnelle de la région qui est Cléry. Elle produit de manière plus échelonnée. On ira voir tout à l'heure la parcelle de Cléry, c'est beaucoup plus chargé. Par contre, Cléry ne fleurit plus maintenant. Cléry, elle donne tout d'un coup, puis après elle peut remonter une fois qu'elle a déchargé tous ses fruits. Alors qu'elle, c'est très échelonné.
Et alors après, quand vous avez terminé, quand vous avez récolté toutes les fraises, qu'est-ce qui se passe avec ces plants-là, puisque vous dites que vous les plantez au mois d'août?
Ici, cette année exceptionnellement, j'ai gardé une culture 2 ans, mais ce sont des plants que l'on renouvelle tous les ans. Début juin, on est dans des conditions qui viennent très difficiles pour le contrôle de la mouche, la Drosophile Suzuki. On est soumis à, on va dire, une pression qui est de plus en plus forte, et donc là, ça devient de plus en plus délicat de garder de la fraise dans ces conditions-là de plein champ abrité. Pour pas prendre de risque d'avoir des fruits avec des vers dedans, on arrête généralement les cultures sur la première quinzaine de juin. On enlève tout ce qui est bâche et on arrache les plants.
Ah, vous arrachez les plants. Et alors après, comment vous vous retrouvez des plants? Alors, vous avez pas de stolons?
Comme la plus grande partie des fraisiculteurs français, il est difficile d'intégrer dans notre production, nous aussi, la production de stolons. Ça serait un plus. Pour avoir un stolon homogène, des variétés homogènes, on achète le plant.
Donc c'est un autre métier que de produire, c'est une sorte de pépiniériste.
Certains y parviennent, mais c'est un pépiniériste. Voilà, on fait appel à des pépiniéristes qui sont en capacité de nous fournir un plant de qualité à un moment donné de l'année, dans les conditions que l'on veut, voilà, en non traité ou en bio, dans mes conditions.
Et alors là, on peut compter une production d'environ combien?
Enfin, moi, c'est une production par plant. Hein. Moi, je fais au total 11 000 plants. Là, c'est des sifflorettes. Je fais 5 variétés parce que j'ai un marché un petit peu diversifié. Mais alors,
donc, c'est lesquelles?
J'ai des Cléry, la variété emblématique de la région, oui, qui est encore très cultivée. Ensuite, j'ai des Lilies pour son côté aromatique, un peu plus aromatique que Cléry. Jolie aussi, qui est une variété qui est un peu plus sucrée, un peu plus aromatique. Après, j'ai des Magnums, pas en grosse quantité, mais et après, en dernier lieu, j'ai sifflorettes pour un marché particulier qui étant pour moi la variété que l'on peut cultiver en sol encore dans nos conditions ici sans avoir trop d'acidité comme Garriguette, et qui est le haut du panier, hein, qui aromatiquement parlant est vraiment une fraise de très bon niveau qualitatif. Mmh. Autant on monte dans le goût, je dirais, par la façon dont je les ai classés, autant on descend aussi dans le rendement. Ce qui veut dire que, à contrario, il faut avoir une valorisation qui soit en adéquation avec une faible niveau de production. D'ailleurs, si on veut que la variété se maintienne sur une exploitation, il faut qu'il y ait une valorisation en conséquence. Donc c'est ce que j'essaye de faire auprès de mes consommateurs locaux, c'est d'expliquer qu'une sifflorette, ben, si on fait 300 grammes par pied, c'est bien.
C'est pas énorme.
Mais bon, dans les conditions de plein champ. Hein. Et puis avec une Cléry, bon, moi, je suis monté jusqu'à 500, 550 grammes par pied. Là, on peut avoir un produit qui est plus accessible au niveau prix avec une Cléry, avec une sifflorette, un prix qui est un peu plus élevé.
Qui a la chance de pouvoir croquer ces belles fraises?
Bien, tous ceux qui veulent venir en acheter ici déjà. Voilà,
vendez directement ou est-ce que vous avez aussi des marchés?
Je vends ici. Non, alors je suis seul actuellement sur l'exploitation. Donc il faudrait être à 2 ou à 3 en famille pour pouvoir avoir une personne qui se dédie essentiellement à la partie
donc,
marché.
Donc on vient vous voir.
Voilà, parce que moi je m'occupe de la partie commercialisation aussi. Ici, en AMAP, la map de Caron, la map de Carpentras pour les fraises. Ensuite, je travaille avec la Biocoop de Carpentras. Oui. Voilà, c'est un partenaire depuis de très nombreuses années, un de mes gros clients locaux. Ensuite, je travaille avec la plateforme de Biocoop Nov, enfin c'est l'association Soleil Bio, et je travaille avec des clients du nord de la France. Donc là, je fais de l'expédition. On est sur des produits avec des productions qui peuvent s'envoler très rapidement, et donc on va dire que la consommation locale ne suffit pas à éponger les kilos qui peuvent sortir en quelques jours. Tout d'un coup. Ce qui veut dire qu'on est obligé de s'appuyer aussi sur de l'expédition.
Et ça fait combien de pourcents?
30-70. 30 en local et 70%, sachant que je cherche à développer de plus en plus en local. C'est par l'image, par la reconnaissance du consommateur qui vient ici, qui se dit waouh, voilà, qui reconnaissent qu'il y a des bons produits, qui savent qu'il y a une sécurité sanitaire, qui reviennent chaque année. Donc j'ai des j'ai beaucoup de clients fidèles. Les AMAP se portent bien, se portent de mieux en mieux vu le contexte actuel et vu les crises sanitaires successives que l'on
Absolument.
A pu avoir.
Et alors une fraise, ça a une durée de vie avant de les manger. Combien de temps est-ce qu'on peut les conserver en fait? Parce que vous êtes quand même obligé de les écouler assez vite, sinon elles vont
alors,
s'abîmer.
Alors moi je ne récolte, j'essaye, hein, je ne suis pas plus royaliste que les autres, mais je ne récolte que ce que j'ai vendu dans la journée. Ce que je suis sûr d'avoir vendu dans la journée, il m'est arrivé de ne pas récolter parce que je n'avais pas vendu. Donc là c'est une grosse prise de risque, on récolte normalement tous les deux jours pour la mouche. Alors cette année peut-être un petit peu moins vu le gel qu'il y a eu la semaine dernière. Mais donc une fraise, une sifflerette, 2-3 jours, on peut les mettre en frigo, les fraises, mais des températures de 10 degrés, une clairie se conserve un petit peu plus longtemps, 3-4 jours.
Donc en général, quand on va acheter ces fraises, on sait qu'elles étaient encore sur le pied il y a un ou deux jours.
Enfin moi, tout au moins, ce que je vends ici en local, si la personne vient acheter demain, mon magasin est ouvert à 11h, les fraises seront récoltées demain matin. Ils peuvent voir même mes salariés qui arrivent avec les colis.
Et au feu de l'action.
Voilà, j'essaye vraiment, pour ma tranquillité d'esprit, j'essaye d'avoir mes frigos vides le soir. Après, si mon client, lui, dans le nord de la France, et lui, il les conserve 8 jours, c'est entre guillemets, c'est son problème, il y a une prise de risque, surtout sur des produits comme sifflerette, qui sont des produits plus évolutifs.
Oui. Donc alors, dites-nous, quand est-ce qu'on peut venir acheter des fraises chez vous là? Parce que c'est très tentant. Je peux vous dire qu'elles sont extrêmement belles. Elles brillent au soleil, là, ce soir.
Moi, je suis ouvert le mercredi de 11h à 12h30 et le samedi de 11h à 12h30, sinon à la Biocop de Carpentras ou alors à Ozamap.
Alors, vous nous rappelez votre adresse?
Alors, je suis sur la route de Baume de Venise, 1613 route de Baume de Venise. Je suis entre Caron et Saint-Hippolyte-le-Graveyron, pas très loin du nouveau rond-point et de la cave de Château Juvénal. Là.
Puis c'est très bien indiqué, on voit le panneau à côté d'un très joli vieux mas en pierre. Alors maintenant, Lionel, vous nous emmenez voir les autres fraises?
Oui, volontiers.
Alors voilà, on a changé, on est maintenant devant une autre variété de fraises.
C'est qu'Eri, on reconnaît bien le type de plante, voilà, avec un fruit qui se conserve mieux, qui a une très belle coloration. Et par contre, qui, comme vous voyez, qui a pratiquement plus de fleurs. Hein.
Oui, on est arrivé un petit peu au bout des fleurs. On a encore quelques vertes, donc il y a encore un peu de potentiel.
Maintenant, elle fait un jet, c'est 35-40 fruits. Puis après, la plante est KO, donc on la relance si on veut avoir un deuxième jet. Moi, je ne le fais pas, parce que c'est trop tard après dans la saison.
Ouais. Alors ça, c'est celle qu'on reconnaît, qu'on voit souvent sur le marché. Voilà. Ces très belles fraises, un peu fermes. Voilà.
Oui, c'est une fraise qui se conserve très bien. Moi, sur l'exploitation, c'est celle que je considère comme étant peut-être la moins aromatique de toutes. Mais après, voilà, c'est un bon produit qui allie à la fois la conservation, la couleur et le goût.
Je suis d'accord, hein, je viens d'en goûter une, elle était très bonne aussi. La particularité ici, je vois que entre les différentes cultures, là, on a des arbres fruitiers. Donc vous avez mélangé vergers et cultures maraîchères.
Oui, alors ici, sur une partie de la ferme, on est sur des vergers maraîchers, donc ce qu'on appelle agroforesterie. Donc on a ici une association entre des cerisiers qui sont en lyre et de la fraise qui est au sol. Alors les cerisiers, ils ont été plantés il y a 4 ans maintenant.
Ils ont l'air assez jeunes.
Ils commencent juste à être en production, donc faire une rotation de la fraise au sol avec un couvert végétal.
Quel est l'avantage d'avoir des arbres fruitiers ajoutés au maraîchage?
Le verger forestier, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, même en viticulture maintenant. L'objectif étant un peu de mutualiser les bienfaits de l'un par rapport à l'autre. Ici, il y a un effet brise-vent, moi par rapport à toutes mes chenillettes. Voilà, il y a aussi tout ce qu'on apporte à l'un en fertilisation et en fertilisation organique bénéficie à l'autre. Il y a l'enracinement de l'arbre qui va chercher en profondeur tous les éléments et qui les remonte. Voilà, donc on a un bénéfice réciproque de la culture maraîchère et de la culture qui est au-dessus. Puis l'objectif étant aussi de se protéger de plus en plus du changement climatique. Et donc on voit maintenant que sous un couvert arboricole, on a des meilleurs comportements, parfois par rapport au gel, mais par rapport surtout à la chaleur et aux canicules.
Donc en fait, ça fait de l'ombre.
Ça fait de l'ombre et ça coupe le vent.
Ça... Et l'avantage quand même, c'est que vous pouvez aussi récolter de ces arbres plutôt que d'avoir des haies de cyprès ou autres
les deux strates sont ici productives parce que souvent en agroforesterie, soit on est sous un couvert arboricole mais les arbres ne produisent rien et on fait du maraîchage dessous, soit on a le contraire. Donc là ici on a les deux strates qui sont productives. Par contre voilà, effectivement on a deux strates qui sont sensibles toutes les deux à la mouche, donc il faut faire attention.
Mais il n'y a pas de plantes qui peuvent être utilisées comme répulsives de la mouche?
Bon, moi je travaille avec un laboratoire là, en pulvérisation en répulsif, on travaille sur de l'extrait d'ail et des huiles essentielles. Après, bon, vous avez vu, on a planté des aromatiques au pied.
Oui, je vois des lavandes, hein,
c'est ça. On a planté des lavandes. Ça peut être autre chose, ça peut être de la tanaisie, ça peut être d'autres plantes qui peuvent être plantées en ligne ou au pied des cerisiers. Voilà, l'objectif étant effectivement d'occuper l'espace et de faire un système un peu push-pull. On essaie de repousser l'insecte qu'on ne veut pas et on essaie d'attirer ce que l'on veut.
Alors, en fait, ici, il y a beaucoup d'herbes. Il y a une grande variété, je vois, de plantes là autour de nous. Donc, quelle est un peu l'idée de tout ça?
Ceux qui aiment le minéral, il ne faut pas venir ici parce que ici, c'est nous on tond l'herbe quand on veut vraiment nettoyer et qu'on a peur des problèmes de drosophile, sinon effectivement c'est très herbacé. Effectivement à l'automne on sème sur une partie de la ferme, on sème un couvert végétal, l'objectif étant d'augmenter le taux de matière organique, d'enrichir un peu le sol en azote aussi grâce aux légumineuses, mais on essaie aussi d'augmenter le taux de matière organique dans les sols qui sont descendus très bas. On enrichit le sol en matière organique, c'est une association entre une légumineuse et du blé ou de l'orge, voilà, ça fait 10 ans et on est remonté de quelques dixièmes de points pour le moment, mais par contre la vie existe là-dedans. L'agriculture de pêcher, vous pouvez aller voir, il y a de la veste et dessus il y a des centaines de coccinelles qui sont présentes et c'est très important pour certaines cultures.
C'est un très bon signe. Ici au mât de Gourédon, on retrouve beaucoup de cultures différentes, un peu comme autrefois les fermes où on faisait de la polyculture.
C'est une ferme de 5 hectares et demi, donc c'est une petite ferme mais très diversifiée avec beaucoup d'espèces fruitières estivales, voilà, comme la pêche, l'abricot, la figue, la cerise, du coin, de la pistache, des amandes. L'objectif étant effectivement d'avoir quelque chose de très diversifié pour s'appuyer d'une année sur l'autre. Il y a une ou deux espèces qui ne marchent pas bien, mais on a quand même malgré tout un ensemble d'espèces qui marchent et qui nous permettent de maintenir le chiffre d'affaires d'une année à l'autre.
De satisfaire toutes les papilles des consommateurs autour de Carpentras.
Parce qu'une production dure un mois et là on est en fait présent sur 6 mois de l'année avec différentes productions.
Il suffit de sonner la cloche du mât de Gourédon pour pouvoir venir déguster tous ces beaux produits et en ce moment les fraises qui sont à point, n'est-ce pas?
Oui, alors voilà, on est en tout début de production, mais ça va s'étaler sur le mois de mai avec de la fraise, je pense, jusqu'à début juin. Et à un moment, il y a une juxtaposition entre la fraise, la cerise et l'abricot. Là, c'est très très bien. Le mois de mai est un mois très riche en fruits ici.
Alors, redonnez-nous votre adresse.
Au 1613 route de Baume de Venise, donc sur la petite route entre Caron et Saint-Hippolyte.
Et ouvert.
Le mont Ventoux, on est à l'intérieur du parc et on est très content que le parc se soit réalisé.
C'est une très belle contribution aux produits du terroir du Mont Ventoux. Merci beaucoup Lionel.
Merci à vous.
Et bonne saison.
Vous venez d'écouter Les Pieds dans le Parc, un reportage à la rencontre des acteurs qui font vivre le territoire du Mont Ventoux.